La plupart des débuts se ressemblent, comme la plupart des romans, comme la plupart des vies. La plupart des vies s'efforcent d'imiter les romans qui imitent la vie. Ma vie est une catastrophe. La plupart de mes romans ressemble à la catastrophe de ma vie qui ne ressemble à rien, comme la plupart de mes débuts. N'avons pas été si nombreux, toutes ces foutues années, à concevoir des plages, des océans et des horizons sur mesure pour délivrer nos mots exacts ou graves ou contagieux ou désespérés. Et graver mon nom à coups d'orteil dans ce sable inventé, nos noms. Et d'autres noms encore qui n'étaient à personne et pouvaient donc servir. Jack Dulliose, Sal Paradise, Ray Smith et Léo Percepied. Tous mes moi et non moi, presque moi, censément moi, chair et masque. Mais lequel suis-je à la fin? Oublie ça et concentre-toi sur les faits. Jack Dulliose et les autres, donc. Tous mes moi-membres tonitruants de la tonitruante moi-bande des clochards célestes, anges de minuit et autres souterrains. Et les fameux amis que j'avais alors. Mais à présent, ces mêmes amis ne perdent pas une occasion de critiquer mon attitude et se demandent s'ils peuvent raisonnablement demeurer mes amis. Allez tous vous faire foutre! Non, ne bois pas ce soir, amigo, ne bois pas ce soir, ne bois pas ce soir. Si tu ne veux pas mouiller ton froc avant d'entrer en scène. Ginsberg m'avait pourtant bien dit de refuser ce contrat, à moins que je n'aie cessé de boire. Cesser de boire. À la tienne, mec. Danger. Danger. Mexico brûle. Et nos retrouvailles, comme toujours, comme partout, brusquent nos rires, car nous sommes facétieux, n'est-ce pas? Nous regardons nos bedaines de bientôt quadragénaires, car nous sommes gourmands, n'est-ce pas? S'épanouir dans l'air du temps, libres et arrogantes, par-dessus les élastiques distendus de nos caleçons californiens. Sous le regard impénétrable du décharné William Burroughs. Hey, j'espère que tu n'as pas oublié qui t'a refilé le titre du festin nu. Charmante petite piole de fille à New York City. Le docteur Allen Ginsberg, à poil, comme de juste, et son assistant, le docteur Peter Orlovsky, prône de concert tout ce qu'il y a de prônable en matière de sexe. Et de sexualité, et de sexe à gogo, palpant et affolant tout ce que la pièce compte de mètres carrés, de peau blanche, et de fessiers à chahuter. Oui, mais j'en pinçais alors pour la peau noire d'Alain, que je m'apprêtais à flanquer dans ce putain de livre, Les Souterrains, comme on traîne un ancien associé en justice. Et Alain voudra elle-même me traîner en justice. Et nous offrirons tous deux pour finir le triste tableau de la mesquinerie ordinaire des vieux amants aigris, moi tout bonnement malade de jalousie, elle furieuse d'avoir été par moi décrite comme frigide, etc. De sorte que je me suis tenu ce soir-là, en dehors des divagations érotiques Ginsberg-Orlovskiennes, pour me consacrer pleinement à la bouteille en cours. S'introduisait alors, imperceptiblement, le doux poignard liquide dans mon âme d'ivrogne. L'âme, le siège du projet de l'être, fait de détachement et de sainteté, maculé d'éclair et les étrons de la faute, de l'aigreur et de la médiocrité. Et voilà une définition. Le doux poignard liquide s'est entre-temps révélé un inhumain piège à mâchoire, du genre de ceux dont le renard ne parvient à s'échapper qu'en dévorant sa propre patte. Retiens bien cette image, mon pote. Qui pourrait croire que dans ce trou creusé par Max Gordon dans New York City, ville bandée vers l'avenir naïvement cynique du business, savoir le paradis des boursicoteurs peuplés d'anges encombrés de calculettes folles à millions fous de dollars dingues, que dans ce trou pompeusement baptisé Village Vanguard, où sont venus souffler, frapper, gratter, scatter, Art Tatum, Gardner, Mingus, Bird.
Eh ouais,
Bird. Et Coltrane et Thelonious et Dexter, que dans ce trou terrier, archi connu depuis 1936 dans cette ville, éjaculé vers le très haut nouvel ordre planétaire orbital, dans ce trou où j'ai joué bien des fois dans les marges du concert mon rôle d'imprévisible, incontrôlable, clochard, bop, braillant et délirant. Qui pourrait croire que, bien qu'absolument non musicien, très vaguement chanteur et indubitablement ivrogne, je me produirai un jour dans ce trou prestigieux en qualité de poète, nanti d'un contrat dûment signé du proprio et de moi-même, Jay Kerouac, si après dénommé le contractant, papelard stipulant que le contractant s'engage à lire ses poèmes ou ce qui lui chantera chaque soir durant un mois pour la rondelette somme de temps. Et qu'il pourra fouetter à l'occasion, en compagnie de quelques fameux musiciens de l'heure, lesquels musiciens fameux en quête de novation ne dédaignent pas l'idée de poèmes jazzifiés ou de jazz poétisés et ont eux-mêmes copieusement roulé leur bosse avec ou sans sac à dos et discutent déjà d'albums parlants et concertants et déconcertants avec le pareillement fameux producteur Norman Granz. Tout ceci participant de l'excitation générale. Une époque épatante, épatante, véritablement épatante. Le crayon se plaint de la page blanche, pantelante, écartelée. Mais elle est raide et froide comme l'est une feuille morte. Va t'en bander pour une morte, vous, oui, peut-être, mais moi, pas. Je suis différent, je ne ressemble à rien. C'est une putain de vérole qui me grêle la face, aussi férocement qu'un bec de charognard. Anything blue. Soif d'un fût de bière Mex ou d'une barrique de Château-la-Merde. Inimitable parfum de biture, arôme catastrophique. Couleur sans le poète écrabouillé. Goût de n'importe quoi. Smell of anything blue. Kerouac a soif. Fille qui gigote là-bas. La mèche blonde allumée sur commande. Adoratrice de jazz à tout va. Dieu exotique. Se déhanche lubrique au petit bonheur. Chopin un temps sur quatre. Anything blues. Anything blues. De la mystificatrice. Anything blues. Du mystifié castré. Anything blues. De la cicatrice. Anything vagabond, grand blues de la conquête et de la perte. Anything asymptomatique, viral, carabiné, blues. Anything blues. Instantané béat de la péance. Quand les pieds de l'ivrogne s'enfoncent dans les currentes moelleurs de l'univers sensible, des désespérément administré par des personnalités remarquables, ces bienséantes. L'on, professeur Béjas, devisant en latin dans les coulisses du savoir, odi profanum vulcus, pas vous? Ex nihilo nihil, mon cher, abyssus abyssum invocat. L'ivrogne donc s'engouffre dans la gueule béante du monstre pseudo-marin. Je, Jonas Quack Kerouac, englouti et baleiné, avant que recraché sur le caillou brûlant de l'iniquité. Rampe l'arbre sec, Jack, crampe la main de Dieu. Bougre lâché dans la nature hostile des buveurs d'eau. Récite voir des petits poèmes payant village vanguardisés en contrepartie desquels les vignerons portugais pisseront ce porto délectable ou non délectable, ce vin faramineux de stupeur, d'impuissance et d'oubli. Cueille donc les clabaudages de tes femmes. Les follements estomaqués de la critique défaite. Goûte à la joie mauvaise de la revanche, amigo. Traîne, strophe après strophe, tes détracteurs dans la boue rimbaldienne et tiens le pas gagné. J'atteste la joie du sac à dos neuf et de la très pratique petite trousse de couture concoctée par mes mères. J'atteste l'horreur des ampoules à vif, du dos rompu, des suées, piqûres, chiasses, corps bourreau, corps fardeau. J'atteste la joie du bruit de la fermeture éclair, du chaud duvet de montagne dans le désert d'Arizona. Horreur attestée, ciel hostile, chien teigneux, gros con d'ennemis jurés de la poésie et du vagabondage. J'atteste la joie des secrètement joyeux chauffeurs de bus Greyhound, la tête emplie de femmes anonymes jadis transportées avec joie. J'atteste l'horreur du chauffard partageux guettant le pouce levé du candidat au crâne. Attesté des oiseaux nocturnes envapés dans le bleu de morgue d'une enseigne de bar à pute. J'atteste l'horreur du trop lent routard, trop vieux poète, trop lourd fardeau, Kerouac, cherchant les coups et les ayant trouvés lapins seuls dans le caniveau, ses vomissures d'ivrogne. Thank you. j'atteste le vide en toutes choses. Et la pensée vide. Et le monde, coque vide. Et la magnificence sidérale de cette générale vacuité. J'atteste la folie populeuse électrique, déchaînée dans la frénésie matérielle des foules, lancée à l'assaut des montagnes de hamburgers et des montagnes de pick-up Ford et des montagnes de routards entolés. Et j'atteste les sinistres sourires des entôleurs. J'atteste la folie, oui, la mesquinerie, la jalousie, l'étroitesse d'esprit. La triste humaine pelote à dévider dans le piège labyrinthique. Et voilà l'origine de l'incommensurable soif. J'atteste la souffrance universelle. Et jusque dans l'éclat de rire sexuel. Mais j'atteste l'extinction de la souffrance. Troisième sainte vérité du Bouddha, j'atteste les multiples visages du Bouddha, et les multiples visages de la souffrance, et les multiples visages de la sainteté. J'atteste l'ivresse du carrefour. Quelle direction ne pas emprunter? Qui ne pas rencontrer? Où ne pas se perdre? Vers où ne pas entamer une vie nouvelle? J'atteste l'impossible entreprise du poète porteur d'éveil, et j'atteste qu'il est le plus malheureux des hommes. Oh, 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 oh. Oh, mais le soi-disant plus malheureux des hommes est un écrivain à la mode qui claque du fric et collectionne les filles. Quand je ne rêve que d'une vie tranquille au fond des bois. Le pic de la désolation. Rappelle-toi le pic de la désolation. Tout un été passé comme guetteur au sommet du trop réel et trop bien nommé pic de la désolation. Plus que jamais en manque de tintamarre et de vin de Tokay, et tellement désolé des seulements et de désœuvrements que la désolation même se ficha dans ton amertume d'ivrogne. Puis à Big Sur, dans le chalet de bord de mer de Ferlinghetti, l'abcès de la désolation soudain crevé libéra son pu de folie délirante, masochiste et paranoïaque. Une épouse. Des enfants, une cabane perdue et des rosiers grimpants. Voilà l'idée. Quand tu as faim, mange ton riz. Quand tu as sommeil, ferme les yeux. Et quand tu veux te saouler, descends donc en ville. Mais pourquoi voudrais-je alors me saouler? Et pourquoi ne le voudrais-tu pas? Rappelle-toi tes résolutions de montagnard errant, de Saint-Bicu, mendiant, autostoppeur. Oui, mais j'ai travaillé, hein, et je travaille. Truman Capote dit que tu tapes à la machine. Oui, mais Allen Ginsberg dit, lui, que je révolutionne la littérature. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour lire un de tes foutus poèmes révolutionnaires? Mais ces gens-là me détestent. Ils n'attendent que d'avoir bu un deuxième verre pour me jeter des cacahuètes. Ils me jetteront des cacahuètes. Et ils riront. Et ils diront « Ce vieil alcoolo de singe pisseur de phrases est décidément impayable. » Et j'aurai l'air, effectivement, d'un vieux singe ivre. Et nulle poésie ne me sortira plus de la bouche. Et je serai tout à fait devenu ce qu'ils ont décidé que j'étais. Quand je ne l'étais pas encore, j'étais né à Lowell, Massachusetts, pour faire un chef de gare de Lowell, Massachusetts, et pas un rouleur new-yorkais de mécanique livresque propriétaire de la trademark B-Generation. Et encore moins, sans doute, Jack le dingue, qu'on vient voir pour se fendre la gueule, réciter fin sous ses poèmes de cinglé sur la scène du Village Vanguard. Thank you. Gérard, tout blanc, est dans son lit, les yeux fermés, les mains froides posées sur le drap blanc. Je lui demande « Tu veux jouer, Gérard ? Tu veux jouer au fantôme ?» Une mouche se pose au coin de sa bouche. La main de mes mères la chasse dans l'air tiède. Je dis « C'est son ami la mouche ?» Je lui dirai que tu l'as chassé quand il se réveillera. La main de mes mères se pose sur ma tête, comme la mouche sur Gérard. Et je la chasse à mon tour dans l'air tiède. Et mes mères disent « Ton grand frère se repose. » Une main invisible chiffonne son visage et des petits cris d'animaux sortent de sa bouche. Tandis qu'elle se tourne vers la fenêtre. Mais il ne répond pas. Je dis « La mouche te parle, Gérard !» Mais il ne répond pas. Je dis « Est-ce que Gérard est mort ?» Et mes mères disent « Le pauvre petit a tellement souffert. Il est au ciel à présent. Il se repose. » Je dis « Est-ce qu'il me voit depuis le ciel ? Est-ce qu'il m'entend quand je lui parle ?» Et la porte de la chambre s'ouvre, et papa entre avec sa veste et son chapeau, et je lui crie « Gérard est mort ! Il se repose ! Il me regarde depuis le ciel !» Et papa dit « Veux-tu te taire ?» Et mes mères « Voyons Léo, ce n'est encore qu'un bébé, et moi je ne suis plus un bébé, j'ai 4 ans, alors ferme-la !» pleure en regardant son fils mort et je le regarde pleurer. Je n'ai pas tué mon frère. Je n'ai pas tué mon frère. Je n'ai pas tué mon frère. Mon frère est mort. Je suis vivant. Je n'ai pas tué mon frère. Qui a tué mon frère ? Mon frère n'a pas été tué. Mon frère est mort. Je n'ai pas tué mon frère. Je suis vivant. Pourquoi mon frère est-il mort ? Pourquoi suis-je vivant ? Pourquoi ne suis-je pas mort? Pourquoi mon frère n'est-il pas vivant? Je n'ai pas tué mon frère. Non, je n'ai pas tué mon frère. Mais il est mort. Et je suis vivant. Ce pourrait être moi, le mort, et lui, le vivant. Pourquoi est-ce lui, le mort? Parce que je suis vivant?
Soif! Vert, lac fantôme, clapotis d'ambre, trésor liquide dans les doigts tristes de l'orpailleur. Qui peut dire après quoi en ont les chiens qui hurlent à la lune? Des anges passent. Tonitruant. Salut les foutus chiens hurleurs de leur fiasque à moitié vide. Filet de scotch à leurs mentons imberbes. Les chiens ont peur des anges, pardi. Soif. Le ver tourne dans la lumière ambrée du vague. Il y a des regards et des chevelures, des revers de vestes chères, des reflets ambrés de foulards chiffonneux, ambre noctant brûle. Terrien, gavé d'ambre, saigné dedans la nuit, tumule, tueuse, et fend, et saigne, et tu larges les amarres, fils d'or, souquet, souquet.
Gérard. C'est toi, Gérard? Gérard n'est plus Gérard, puisque je suis devenu lui. Mais comment être Gérard? Et comment seulement faire pour être? Question pour l'ambre, soif. Suis-je un génie? Nini. Suis-je un peintre? Nien. Suis-je un saint? Yo, no, saint. Suis-je Gérard, peintre génial et saint fiston? Que non! Pagaille, assez de... Tout est de ma faute. J'aurais dû tuer Gérard. Oh Seigneur, comment puis-je penser de telles saletés? Je suis le plus malheureux des hommes. Les lumières de la rue s'éteignent à mon passage. Qui donc repeint sous mes semelles le monde en noir? Avec quoi devons-nous vivre? Que n'ai-je tué mon frère? Que mon frère ne m'a-t-il tué? Je chute partout, je me dissous. L'être n'est rien. Il n'y a que deux pieds. Une machine enregistreuse. Un objectif de caméra. Je est un film tourné avec un filtre ambré.
Moteur, action.
Et bois ton cul, chérie. Avant que ton cul ne me boive.
Coupé. On la garde. Elle est bonne.
Elle est bonne. Elle est bonne.
Thank you.
Est-ce que l'histoire de la matière retiendra ce putain de poème à l'eau salée que composa un dénommé Kerouac sur la grève de Bixer, Californie? Inextricable, plicable, texte tricable. Mais pas de la petite bière, mec. Lève-toi de bonne heure pour l'ingérer, bien d'autres avant toi s'en sont assez mordus la langue. La mer est une sacrée source d'inspiration. Alors, inspire, expire, ou rêve, crève en mazouté, farci de questions très agitées, très agiteuses, très jaziteuses. Bref. Est-ce que l'histoire de la poésie se souviendra de ces paquets de mer fouettant la falaise caverneuse où se tenait le transcripteur Kerouac? Impayable question gazeuse déblat l'éther et lâche-moi ce caillou. Rôle éminemment décerveleur du barouf liquide. Kerouac clash. À vous. Ainsi vont les questions. Mecton. Ad libitum. Vachement glissant. Pas vrai? La forme est le vide, et le vide est la forme. Voilà. Le vide est la liberté. Le vide est-il la mort? Le vide est-il l'absence de Gérard? Pourquoi le vide serait-il la liberté? Vide n'est pas liberté, mais une forme de liberté.
Vous m'avez volé le vide!
Quant au chaos, le chaos se moque du monde. Irruption du chaos dans la forme. Kvrash. Rien dont ne puisse venir à bout une bonne paire de bottes. Hein? Thank you.
chaos se paye ma tête. C'est ça, docteur, c'est exactement ça. Et Bouddha, car j'ai suivi Bouddha, docteur, Bouddha m'a laissé seul. N'est que le sourire que je prête à Bouddha. Je regarde la machine à écrire et je souris le vieux Bouddha qui fugitivement s'immisce entre la feuille et moi. Et le sourire bouddhique dégénère en rictus kéroïtien. La grimace du type qui s'apprête à écrire durant des heures dans un prurite d'alcool, d'enfêtes, d'herbes, de sexe et de Dieu sait quelle autre foutaise encore. Je ne sais plus alors s'il faut écrire ou pas, sortir ou pas, prier ou pas, et boire ou pas, distribuer des nions, faire le beau, l'ouvrir ou la fermer. Jamais dû sortir de mon trou.
Vous savez ce que nous a dit le vieux William Carlos Williams quand nous sommes allés le voir chez lui dans le New Jersey avec Ginsberg, Orlovsky, Corso. On s'attendait à ce qu'il nous sorte des trucs du style «
Le monde est le lieu du poème, les gars. »
Ou bien
« Le sexe est à la base de l'art, Jack. »
Non. Il a regardé par la fenêtre et il a dit
« C'est qu'il y a tout un tas de salauds dans le monde. »
À quoi servent les poètes? À dire ce que tout le monde sait. Tout un tas de... Mais que personne ne sait dire. Ou que tout le monde oublie de dire. Louer soit les lumières de l'homme terrestre, loués soient les guetteurs. Ha! À quoi sert le guetteur Kerouac? À dire « Nous sommes tous debout sur la terre triste » projetant de longues ombres, le souffle coupé par la chair.
Thank you.
Mes mères et ma troisième épouse m'auront vu mourir. Tout comme je me suis vu moi-même mourir au fil des ans dans le miroir de notre salle de bain, avant que des varices œsophagiennes, stigmates alcooliques, ne me règlent mon compte plus sûrement que toutes les raclées reçues dans mes bagarres d'ivrogne. Il y a un précepte zen qui dit comme ça: quand tu parviendras au sommet de la montagne, continue à monter. À présent, me voici au fond du trou. Dois-je continuer à descendre? J'ai continué à descendre, à chuter. Mes invectives, par-delà les ans et les pelletées de terre, swing indéfiniment dans l'atmosphère enfumée et les vapeurs toxiques. Fais de moi le général en chef de la Beat Generation. Où ai-je fourré mon képi, mon uniforme et mes décorations? J'ai 83 millions de haïku sur le bout de la langue et autant d'épigones de zélateurs qui écriront chacun en moyenne au cours de leur existence 4 poèmes. Bref, faites le calcul. Qui a seulement pris le soin de noter que la route suivie sur la route ne mène nulle part? L'Amérique n'est nulle part. Et je ne suis nulle part. Ou plutôt, l'Amérique est dans ma tête. Et je suis dans mes livres. L'errance est une écriture. L'écriture est une chute. Pourquoi l'écriture est-elle une chute ? Parce qu'elle est un plongeon, un bain, une noyade. Parce que la vie fait des mots, et que les mots font de l'encre. Parce qu'écrire est sans fin. C'était mon cinéma. À vous maintenant. Je vous écoute.